Bonjour, bienvenue dans le Keep It Blue podcast. Bienvenue à notre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons Louis comme invité. Bonjour Louis.
Bonjour.
Comment
Comment ça?
vas-tu?
Ça va très bien. Merci de m'avoir invité.
Ah, merci à toi d'être venu. Alors aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle puisque c'est avec toi qu'on fait le premier podcast totalement en français. Alors, tu en penses quoi? Est-ce que tu connaissais le podcast? Comment t'as entendu parler?
C'est des bouche à oreille. Du coup, c'est une amie qui m'en a parlé. Et ça m'a paru assez intéressant, même si j'avoue que le portugais, c'est pas forcément mon fort, mon point fort.
Ah, super! Alors, Louis, comment on te... Bon, on va te présenter sur la chaîne. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout.
Du coup, bah, j'ai 25 ans. Là, dans la vie, je suis auditeur financier pour un des Big Four et je vis en France depuis 2012. J'ai fait presque toute ma scolarité en français. Du coup, j'avais fait l'école française, c'est pour ça que je parle français. Et j'ai aussi vécu en France à peu près la moitié de ma vie. En total, en cumulé, ça doit faire peut-être 13 ans, 13 ans maintenant, je pense.
Et avant, t'as fait l'école française ailleurs?
Bah, du coup, j'étais. J'ai dit que je faisais lien. En fait, j'ai fait l'école française. J'ai fait le lycée français au Pacas, en fait. Et pendant la plus grande partie de ma scolarité avant 18 ans, quoi, bien sûr.
Ah.
Après au niveau éducation supérieure, j'ai fait une prépa d'école de commerce et ensuite d'école de commerce avant de réintégrer le monde du travail à peu près en 2017, exact, pour être exact.
Ah, c'est cool ça, c'est vraiment atypique. Alors, comment c'était ton expérience sur Caracas?
Bon, Caracas, bien sûr, c'est une expérience un peu mitigée, dans le sens où c'est bien sûr une ville que j'adore, mais il y a beaucoup de points positifs, je trouve, à la ville, dans le sens où c'est une ville qui a un très bon climat. J'aime bien aussi la disposition, c'est une vallée. Et on a presque toujours du bon temps, une bonne température. Après, c'est un peu à double tranchant à niveau population, parce que c'est la capitale du Venezuela. À l'époque, quand j'étais là-bas, je crois que c'était à peu près 6 millions d'habitants. Et beaucoup des infrastructures datent quand même des années 60, 70, peut-être un peu 80. Et ce qui fait aussi que c'est malheureusement pas fait pour une ville qui a autant grandi, quoi. Et bien sûr, il y a tout l'aspect politique qui était pas aussi prévalent quand j'étais plus jeune, mais avec chaque année qui passait, la situation s'est gravement détériorée, quoi. Après, en ce qui concerne plus, bon, je sais pas si c'est question par rapport à la scolarité en tant que telle.
Oui, j'aimerais savoir donc comment c'était ton lycée, comment ça marche en fait, puisque beaucoup des personnes qui nous écoutent ne sont pas familiers avec le système français.
En ce qui concerne le lycée français, je sais pas de quand ça date exactement, mais il y a une volonté, il y a une alliance. Il y a une alliance française qui joue un peu enfin, c'est une alliée des ambassades françaises, d'un peu du corps diplomatique. Du coup, il y a des écoles françaises dans presque tous les pays du monde. Dans certains pays, il y en a même plusieurs, surtout quand c'est grand, comme les États-Unis, par exemple. Et où ces écoles qui sont faites pour les expatriés, enfin, dont le but principal est quand même pour les expatriés français, qui d'ailleurs ne payent pas du tout l'école, enfin, dans le cadre où ils reçoivent une bourse pour payer l'école. Et sinon, c'est une école privée pour les personnes sur place, en fait. Et c'est exactement comme si on suivait un programme français, mais à l'étranger, en fait. Avec quelques petites particularités, dans le sens où moi, je suivais particulièrement des cours d'histoire vénézuélienne, et bon, des cours d'espagnol obligatoires, bien sûr. Et après, il y avait la LV1, 2 et 3, etc.
Donc les langues vivantes.
Oui. Sinon, tous les cours étaient en français. Et on avait. La plupart des personnes sur place n'étaient pas forcément des expatriés, plutôt des gens avec une connexion à la France d'une façon ou d'une autre, peut-être un père ou une mère ou un grand-père qui était français. C'est surtout ceux qui faisaient le lien, en fait. Sinon, ou alors quelqu'un qui parlait la langue, c'était aussi ça, quoi. Comme pour moi, moi, dans ma famille, on n'a aucune connexion à la France de façon particulière. Et d'où. Mais c'est fait au fait qu'on a vécu en France, on a appris une langue, et du coup, c'est pour ça qu'on a fait le choix logique de lycée français, en fait.
Et tu penses que les cours étaient comment par rapport à d'autres systèmes éducatifs que tu as pu participer?
Bon, malheureusement, je me suis pas cloné et j'ai pas vu le système éducatif, donc c'est difficile pour moi de vraiment savoir être arrivé à comparer. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même un bon système. Dans un sens, on n'avait pas trop le choix. Le système vénézuélien est assez faible de façon générale. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'éducation chez moi, dans le sens où dans beaucoup de lycées, les professeurs manquent, surtout dans des matières assez importantes comme les maths ou même la langue. Et du coup, ça fait que
Ça fait quoi?
Mais du coup, ça fait que je me souviens qu'on est arrivé. J'ai fait un concours, enfin un examen d'entrée pour rentrer aux universités vénézuéliennes. Et nos moyennes du lycée français étaient majorées de 4 ou 5 points, si je me souviens bien, de base. À l'entrée l'examen d'entrée de l'université. Et ça jouait sur la note finale qu'on pouvait avoir, quelque chose comme ça. Du coup, ça montre quand même pour moi, objectivement, pour moi, ça montre qu'il y a un niveau supérieur dans le sens où là où l'éducation vénézuélienne s'arrête à 20 points, bah, en France, elle s'arrête à 20. Comparativement, elle s'arrêterait plutôt à 25 points, par exemple. Je pense qu'il y avait quand même un niveau de. On demande des choses en plus. Et je pense qu'on demande aussi une habilité à penser de façon un peu plus critique qu'ailleurs. J'ai aussi fait des études en Asie, en échange pendant un an. Et j'ai beaucoup eu l'impression qu'il y avait beaucoup de par cœur, beaucoup d'apprentissage. Après, c'est forcément bien ou mauvais. Mais il y avait beaucoup de par cœur et pas beaucoup de pensées indépendantes, on va dire.
Et apparemment aussi, tu as eu des cours qui sont pas très communs dans les autres systèmes, comme les cours d'éducation civique. Il y avait quoi d'autre?
Oui, effectivement. Après, avec un peu de recul, je ne suis pas trop sûr de la valeur réelle de ces cours-là. Mais effectivement, il y a quand même un effort de sensibiliser, au moins au niveau de l'éducation française, il y a les cours d'éducation civique, etc., sont quand même un effort de sensibiliser au niveau de tout ce qui est la vie citoyenne, etc., quoi.
Et tu penses que ça a fait un effort?
C'est-à-dire.
Pense que ça a fait une petite différence ou non? Enfin, on avait aussi, enfin, t'as aussi eu des cours de philosophie assez avancés, des choses que dans beaucoup de systèmes éducatifs, ils n'avaient pas avant d'entrer à l'université. Au niveau du contenu, des matières, des livres aussi.
Je pense qu'il y a beaucoup de contenu qui est très avancé. J'aurais tendance même à dire peut-être trop avancé dans le système français. Et il y a surtout au niveau de la langue et comme tu dis de la philosophie. Et peut-être même l'éducation civique, il y a beaucoup de problématiques qui sont abordées, qui sont, en tout cas, qui ne m'intéressaient pas forcément quand j'avais 17 ans, 16 ou 17 ans, et qui m'intéressent plus maintenant, ou même, enfin, depuis quelques années, où je réfléchis un peu plus à ces sujets-là, à ces thèmes-là. Et lorsque j'étais plus étudiant, c'était des thèmes qui étaient abordés, mais que j'étais sûrement trop jeune pour comprendre, ou même pour que ça m'a l'air intéressant, ou alors même pour avoir une pensée critique à ce niveau-là, quoi. Il y a beaucoup d'exercices. Ah, ce qui est un peu étonnant, j'ai vu ça aussi en prépa. C'est que il y a beaucoup d'exercices qui sont très méthodiques, surtout pour la philo, ce qui est assez contre-intuitif au début, quoi.
Est-ce que tu as des épisodes de littérature ou de quelque chose qui te soit marqué plus? Qui t'est marqué?
Qui m'a marqué.
Des bons souvenirs.
Un de mes meilleurs souvenirs, c'était sûrement mon année de première. C'est l'année où j'ai passé mon bac de français. Donc c'est un peu le baccalauréat, je sais pas si ça existe vraiment qu'en France, j'ai l'impression, mais c'est vraiment du coup l'examen qu'on passe à la fin de la scolarité régulière, quoi, à la fin du lycée. Et du coup, le bac de français, je l'ai passé en 2011, mais je me souviens que cette année, j'avais une très mauvaise maîtrise de la langue, enfin, quand j'ai commencé. Et j'ai beaucoup lu et on m'a aussi beaucoup aidé pour améliorer cette année. Et toute cette année, c'était une année assez importante pour moi, je pense, en développement au niveau littéraire. C'est vraiment. Et je suis assez content de mes résultats aussi. Donc si j'avais vraiment un truc à dire, ce serait sûrement ça.
Et au niveau des livres, est-ce qu'il y en avait un qui t'avait plus plu?
J'ai beaucoup aimé Kundera. J'ai beaucoup aimé lire de lui. J'ai lu L'Immortalité je crois que je l'ai lu en 2012. Et plus récemment, j'ai lu plus des livres comptables et financiers, donc j'avoue que c'est un peu moins intéressant. Mais j'aimais aussi Romain Gary. J'avais bien aimé.
Demandez l'aube.
Oui, bon, ça c'était la lecture obligatoire. Mais j'avais bien aimé aussi.
Il parle de quoi, Combera? Il parle de quoi, le livre?
Kundera?
Ouais.
En fait, il parle surtout des. Il parle surtout de comment les humains sont très similaires au niveau des mouvements, en fait. Bon, il y a toute une histoire, bien sûr, mais ce qu'il veut dire, c'est que le livre traite sur les différentes façons d'atteindre l'immortalité pour les hommes, c'est-à-dire de vivre le plus longtemps possible. Bien sûr, la vie humaine se termine de façon très très brève, mais il y a des façons de survivre à la postérité, surtout dans l'esprit des autres, mais dans l'histoire, et aussi un truc qu'il rédigeait bien dans son livre, c'est dans les mouvements. Il notait qu'il y avait très peu de mouvements quand je. Il y a un nombre presque infini de personnes, mais pourtant on répète souvent les gestes, la gestuelle. Et des fois, on reconnaît quelqu'un, on a l'impression de reconnaître quelqu'un alors que juste par les mouvements qu'il a, alors que c'est pas du tout la même personne, en fait. Non, c'est un livre très intéressant. J'ai bien aimé aussi lire plus les Lumières, un peu tout ce qui est un peu de lecture Voltaire, Montesquieu, Rousseau un peu moins.
Alors Rousseau, il était très scolaire.
Ouais, il a dit bizarre aussi.
Et Voltaire, t'as lu Candide, c'est ça?
J'ai lu Candide, j'ai lu Zadig.
C'est quoi l'histoire de Zadig?
Oula, je me souviens plus là.
Tu te
Mais
souviens plus du
non,
tout?
là je vais là, tu me poses, là je préfère pas m'afficher.
Pourquoi? Non, Candide, il m'a vachement marqué parce que quand on pense au philosophe des Lumières, on s'attend vraiment à quelque chose de compliqué, de très profond. Tu vois, les Lumières, quoi, on s'attend vraiment à ce que ce soit du très très intellectuel. Alors qu'en lisant Candide de Voltaire, surtout, c'était très court, c'était ultra simple à lire. Et l'histoire en soi, elle était très drôle, dans le sens où c'était un Candide, donc le petit garçon, qui était tout naïf, qui ne connaissait rien du tout au monde. Et Voltaire, en fait, il faisait qu'à travers son voyage et ses connaissances, il découvre de grands moments du monde. Donc à son époque, donc c'était vers 1700 et quelques, je pense, et il découvre que le monde n'était pas si joli que ça. Il va dans de grands, grands, grands drames et il dit, mais non, mais comment ça se fait que le monde n'est pas tout organisé, que tout le monde ne soit pas très gentil? Et il voit donc toute la misère du monde. Ce qui est à mourir de rire, de voir sa réaction à chaque épisode et les personnages qu'il rencontre, pour à la fin finir dans son jardin. Donc, je sais pas, c'était vraiment marrant, marrant à lire, comparé à la lecture plus dépressive, genre Voltaire, genre Zola, Victor Hugo,
Bon,
Baudelaire. Ouais,
là,
ouais, ouais.
on parle plus du même genre là. Candide, pour moi, c'était un peu bizarre comme expérience, dans le sens où ça m'étonne que le livre était clairement écrit pour. Un peu pour se moquer, un peu pour réveiller les gens des mal du monde et se moquer un peu des gens un peu naïfs peut-être. Et pas forcément se moquer, mais au moins pour qu'ils se réveillent. Mais dans un sens aussi, c'était un peu étonnant parce que je pense pas que en l'année qu'au XVIIIe siècle ou là où Voltaire a écrit Candide, il y a pas tellement, il y a autant de personnes qui pensent vraiment que tout allait bien dans le monde, quoi. Plus que plus c'est une œuvre plus peut-être contemporaine dans cet aspect-là.
Qui était très avancé pour son époque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ouais, c'est vrai qu'il y avait après des expériences un peu plus, comment dire ça, humaines, humanistes, un peu crues, non? Avec Baudelaire, Balzac, il y avait aussi Zola, où ils allaient dans les coins de Paris où il y avait le plus de misère, prostitution, inceste. C'est vrai que c'était des sujets assez lourds, non?
Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Et donc, t'as fait ton baccalauréat, t'as fini avec de bons résultats, tout ça. Et tu penses que l'époque était bonne aussi pour réaliser son bac? Parce qu'en 2012, je pense, c'était une des dernières années de Chavez au pouvoir, non, Caracas, enfin, au Venezuela.
Oui, il est mort quelques années après. Deux
14, quatorze.
2013 ou 14. Toutes les années, en fait, ce qui se passe malheureusement, c'est que toutes les années, ça va de pire en pire. Et du coup, on considère bonne époque bouge aussi, en fait. Avec plus ça va mal, plus on se dit, bah, on n'était pas si mal à l'époque, quoi. Mais malheureusement, je pense que ça allait pas bien depuis même 2008.
Et comment ça allait
Non,
pas
mais
bien? Comment c'était de vivre cette expérience? Qu'est-ce qui n'allait pas bien, justement?
bah, à l'époque, ça allait quand même tout allait bien dans le sens où déjà d'un point de vue économique. Tout allait bien dans le sens où il y avait assez de pétrole pour payer les dettes, on va dire. Mais le
Donc ça veut
problème,
dire que
c'est
tu avais
que
accès à un minimum d'accès aux services, c'est ça? Manger, dormir.
bah après, oui, les gens avaient encore confiance dans la monnaie, en fait. Donc on pouvait encore apporter. Le Venezuela, c'est le pétrole, c'est 90% de, sinon plus. Du PIB.
Il n'y avait pas de production locale, enfin, elle avait été détruite peu à peu, non, à travers le gouvernement Chavez.
Elle était encore. Il y avait encore une petite partie qui fonctionnait encore pendant son gouvernement, mais qui, bien sûr, a été détruite progressivement par toute la machinerie de gouvernement, quoi. Et aujourd'hui, c'est pratiquement, il ne reste presque plus rien. Et bien sûr, il y a des méthodes typiques, des choses qui n'ont jamais marché nulle part, comme le contrôle des prix, qui font que, bah, tout d'un coup, si on dit que le lait, ça coûte X, et que du lait, ça coûte X plus Y, bah, personne ne va produire de lait. Ou ça sert à rien. C'est comme autant mettre la clé à la porte pour les personnes qui font des produits laitiers.
Donc, il y a eu beaucoup
Et
de produits qui ont disparu donc du marché.
oui, et c'était aussi par vague. Je me souviens qu'à l'époque, moi, il y avait déjà du rationnement quand j'étais encore enfant, mais même après adolescent, il y avait du rationnement, surtout sur le lait. Le lait, c'était vraiment quel plus. Et après, progressivement, ça c'est moins connu, mais du coup, il y avait du rationnement sur un peu tout, hein. Typiquement, la blague quand j'étais en France en 2013-2014, c'était qu'il n'y avait pas de papier toilette au Venezuela, en fait. Après, c'était une blague, mais c'est vrai. Et bon, il y a aussi eu. Il y a eu, bien sûr, il y a aussi eu des pénuries d'autres produits basiques, hein, les œufs, la farine, et c'est tout à fait tragique. Le lait en poudre, la formule pour les bébés, etc. Je
L'eau,
crois que ça s'est disponible.
l'électricité aussi, non?
Oui, bon, ça c'est. À Caracas, on était aussi assez épargné, mais et aujourd'hui c'est vraiment un problème. Mais même en 2012, dès qu'on sortait de la capitale, les pannes d'électricité sont très très fréquentes. C'est très commun que dans les bâtiments, il y ait que certaines heures où l'eau passe, l'eau courante passe. Peut-être 1 ou 2 heures dans la journée. Donc les gens profitent pendant ces 1 ou 2 heures pour remplir les baignoires, etc. Et idem pour l'électricité, qui est très, très, très. Qui disparaît très vite aussi, quoi. Ils la mettent quelques heures à la journée et après c'est terminé. Donc souvent, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils achètent leur propre générateur d'électricité. Souvent, c'est importé des pays voisins ou des États-Unis. Et comme le pétrole est tellement bon marché, on prend des générateurs d'électricité au pétrole, on les fait tourner au pétrole, et ça va tout seul.
Et c'était comment aussi pour trouver les choses du supermarché, le papier toilette, comment ça se passait dans la vraie vie?
Souvent, il fallait faire plusieurs supermarchés. Il y en avait moins, quand je pareil, moi j'ai pas autant vécu ça que beaucoup de gens. Mais c'était très souvent le cas que on attendait les arrivées de X produits, et que dès qu'il y avait une arrivée, le mot courait très vite, en fait. Les gens qui savaient que ça arrivait envoient des messages, etc. Donc il y a un réseau par les réseaux sociaux. On se fait savoir que il y a tel produit à tel endroit, et du coup on va rapidement aller l'acheter. Et sinon, ça se retrouve à des prix du coup qui ne sont pas du tout de marché, par des revendeurs, en fait, qui vendent dans la rue ou qui vendent dans d'autres magasins, en fait, mais qui sont pas les grandes surfaces.
Donc ça laissait pas mal d'espace aussi à la spéculation.
Oui, bien sûr, mais ça c'est normal dans ça c'est normal.
C'est normal. Ça dépend.
C'est normal dans un pays, dans ce cas-là. C'est ce qui arrivait aussi en URSS, c'est ce qui arrive encore c'est ce qui arrive encore en
Aujourd'hui.
France, par exemple.
Ouais.
Ou en France, aux États-Unis, il y a des produits qui sont très régulés. Par exemple, en France, il y a une forte inflation des prix des cigarettes, par exemple. Et du coup, ça fait qu'il y a un marché parallèle qui se développe de gens qui vont, surtout aux frontières, bien sûr, de gens qui vont acheter les cigarettes dans des pays voisins, type Belgique, Luxembourg, Allemagne, et qui le revendent en France, et à un prix moins cher que ce qu'on peut les vendre en France. Bien sûr, là c'est dans l'autre sens. Là, ici, c'est parallèle où ici c'est un marché parallèle où c'est pas il n'y a pas un problème de pénurie. Du coup, les prix du marché parallèle sont plus bas. Mais au Venezuela, c'est un marché parallèle où il y a un problème de pénurie. Donc les prix sont plus hauts. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la pénurie force les gens à ne plus utiliser le bolivar. Le bolivar, il a eu 1 million % d'inflation en 2018. Et ce qui veut dire que personne n'a confiance dans la monnaie. Personne
Donc
ne veut des bolivars. Et
les gens voulaient des dollars, c'est ça?
ça. Là, au Venezuela, il y a une économie complètement parallèle qui fonctionne qu'en dollars. Et sinon, c'est impossible de travailler. Tu peux pas être payé en bolivar et après que ton salaire il perde de la valeur avec chaque seconde qui passe, en fait.
Et aussi,
Et
le dollar était interdit à l'époque. Comme en Argentine, il
Oui,
était interdit.
mais le dollar n'était pas interdit à l'époque. Mais il y avait des restrictions pour faire les échanges. Des régions que n'avait pas tout le monde, et surtout quand on a des connexions au gouvernement, etc. Ce qui force aussi un autre marché parallèle, bien sûr. Il n'y a que des marchés parallèles, monsieur, là, de toute façon.
Donc c'est vraiment des alternative way. Il y avait une autre chose aussi que j'étais très curieuse. Ah oui, au niveau des médias justement, la télévision, la radio, puisque Chavez il adorait s'afficher, non, c'est ça, comment c'était de vivre alors qu'il s'affichait donc sur toutes les chaînes possibles, donc sur la télévision, radio, tout était pris en chaîne nationale et alors à plus, des fois plusieurs fois par jour. Des fois sur de longs horaires, donc c'était comment de vivre avec ça pour ceux qui n'étaient pas très intéressés à tout ce qu'ils voulaient dire.
C'était assez intéressant dans le sens où je pense que j'ai jamais vu quelque chose comme ça, même en France. Le président ne peut pas vraiment dire à toutes les chaînes, vous êtes obligé de passer mon discours. Il passe le discours souvent parce que c'est court et parce que c'est d'intérêt national, bien sûr. Au Venezuela, toutes les chaînes étaient forcées, sans préavis, à passer un message du président de la République. Et donc, bon, si on a le câble, chez moi c'était DirecTV ou je ne sais quoi, ben, on peut mettre quelque chose d'autre. Mais si on écoute la radio et on est dans un bouchon, ben, pas le choix. Enfin, faut mettre un disque ou je ne sais quoi. Là, c'était. Et l'homme pouvait parler pendant longtemps. Typiquement, je pense qu'il y avait. C'était des durées moyennes entre 6 et 7 heures, quoi.
Si c'est 7 heures, ça fait une sacrée journée tout ça.
Avec des pics, je pense, à 8, 9, 10, 11. Et je ne sais pas comment il trouvait autant de choses à raconter. 11 heures, c'est beaucoup de temps pour être au micro. Et ça enlevait le but des messages nationaux qui sont supposés être courts et concis. En plus, personne n'a le temps d'écouter pendant 11 heures ce que raconte le président de la République, même si c'est le président de la République.
Et aussi, il y avait des choses qui se passaient qui étaient assez intéressantes. Les fameuses journées fériées, donc déclarées d'un jour à l'autre.
Oui,
Donc
effectivement.
explique-nous ça, comment ça marche, comment ça se passait.
Bah, c'est simple. Au Venezuela, il y a une. Bon, à l'époque, mais encore aujourd'hui, il y a une dictature où le président a tout le pouvoir. Et on pourrait autant ne pas avoir de président et dire qu'on a un roi qui fait sa loi comme il le voudrait. Parce que c'est le cas. Et si le roi ou le dictateur a envie de dire. Demain, c'est un jour férié. Alors, demain, c'est un jour férié. Il n'y
Donc
a
personne ne va
pas
travailler, il
de.
n'y a pas d'école, tout est fermé.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Ouais, ça
Tout est
c'est
fermé.
très drôle. Il y avait aussi des... Allô, allô? Tu m'entends?
Et puis, on n'en parle plus, quoi.
Ouais, et
Oui,
il y
allô?
avait aussi des... j'ai entendu parler aussi de censure à la télévision ou censure au niveau des films.
Bon, ça, c'est pas que le président, mais bien sûr, enfin, dans le sens où ça date pas de ce gouvernement-ci. Dans un sens, au Venezuela, on n'est pas les pros de la démocratie non plus. Même le président plus démocratique. Qui ont joué un peu plus de jeu, je vais pas non plus les dénigrer complètement, mais ont été un peu coupables de X ou Y au niveau corruption, censure. Mais c'est vrai que ça s'est largement que ça a largement empiré sous le régime chaviste, en fait. Et tout ce qui concerne les... C'était vraiment évident que tout ce qui concerne les problèmes du gouvernement sont censés être chuchotés ou ne même pas être adressés aux télévisions nationales. En ce qui concerne, si on met la télévision et les jeux là, bah, tout va bien, tout va pour le meilleur des mondes.
Ah oui, l'opposition, les
Et puis...
candidats qui disparaissaient chaque année aussi, c'était marrant ça.
Et bien sûr, il y a ça aussi. Ils vont en prison parce que c'est des délinquants, entre guillemets.
Il est toujours en prison,
Sinon,
Lopez, non? C'est lui
je crois
le
qu'il est...
gouverneur.
Non, lui, il a été relâché. Mais on a
Oui.
encore autour de 300 prisonniers politiques. Et après, un autre souci, c'est bien sûr ce qui concerne tout ce qui est statistique, tous les chiffres qui sont sortis. Des fois, je m'amusais à regarder les chaînes du gouvernement et les statistiques qui sont sorties, c'est difficile d'y croire. Il y a beaucoup d'inventions, je pense. Au niveau des chaînes du gouvernement.
Donc ça fait en fait une enfance assez atypique dans le sens où même si on ne voulait pas vraiment le vivre, la politique rentrait dans nos vies, donc on était politisés depuis le plus jeune âge, en fait, c'est ça?
Oui, il y a pas trop le choix, en fait. T'es sûr qu'il n'y a pas trop le choix. C'est un monde où bien sûr on peut pas s'en empêcher. Surtout lorsque il y a le président de la République qui parle à la radio pendant 8 heures, ça force quand même les gens à en parler. Quand tout va mal, ça force les gens à en parler. Et en fait, ce qui force vraiment la même si tout allait bien. Et je pense que ce qui change, ce qui force vraiment les gens à se rendre compte et à intégrer toute la politique dans leur vie, c'est que c'est le pouvoir du président dans la 5e République au Venezuela, il est simplement trop trop fort. Le
Ah oui.
gouvernement a juste
Donc ça veut dire qu'il pouvait garantir ou non la réception de certaines aides de nourriture, de logement aux gens, l'accès à l'éducation, à la santé, au travail aussi, non? S'il était parfois lié à la politique.
C'est une vision du pouvoir du président qui est simplement omniprésente, en fait. C'est plus autant élire un roi, en fait. C'est comme si on élisait un roi tous les 7 ans, 7 ans. Ça n'a vraiment aucun sens. Et quand on arrive à ce niveau-là, bah bien sûr que du coup il faut s'y intéresser et on y est forcé dans tous les sens. Quand c'est le président ou le gouvernement qui prend toutes les décisions dans ta vie, que ce soit l'éducation, que tu manges, les vacances, quand tout change, toutes les années il y a quelque chose qui change. Le plus marrant pour moi, c'était peut-être la demi-heure. On a changé le fuseau horaire pour avoir une demi-heure de plus ou de moins. C'est impossible d'avoir une vie stable. C'est impossible de ne pas de se dire de toute façon ça ne m'affecte pas, puisque de toute façon ça t'affecte. Donc il faut au moins être au courant de ce qu'on raconte.
Oui, quand il avait changé l'heure et qu'on avait une demi-heure de plus. Donc déclaration présidentielle, demain vous changez vos montres et tout à coup l'heure du pays a changé. Donc le monde entier fonctionne à une certaine heure, mais non, pas au Venezuela. C'est vrai que c'était vachement marrant comme épisode.
On change le drapeau national, on change l'heure. Je pense que si on pouvait on change la direction dans laquelle regarde le cheval sur l'écusson du drapeau national. Mmh. Il y a beaucoup de folie en fait.
Mmh. Et donc attends, pour conclure donc cet épisode vénézuélien, j'aimerais savoir un peu plus sur tout d'abord sur les cours d'histoire du Venezuela justement. Comment ça se passait dans une école française? Quelle était la manière de l'aborder? Qu'est-ce qu'on apprenait de manière générale?
Honnêtement, on n'apprenait pas grand-chose. Les cours étaient quand même assez brefs. On n'avait pas énormément d'heures. Après, c'était pour le bien et pour le pire. On a fait une version d'histoire assez rapide quand même. On est rentré quand même dans les détails. Et, je garde des bons souvenirs de mon enseignante et de mes cours. Mais c'était quand même toutefois assez accéléré. Après, l'histoire du Venezuela est très courte, dans le sens où on n'a pas 2000 ans d'histoire comme on peut l'avoir en Europe. Le pays existe depuis maximum 1400. L'histoire du Venezuela remonte maximum à 1492, à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et bon, après, on peut bien sûr on peut parler un peu des indigènes qui étaient sur place, mais contrairement à ce qu'on pourrait voir au Mexique ou en Chili ou en Équateur, on n'avait pas de tribus indiennes très développées au Venezuela. Il y avait un peu les Chibchas à l'ouest, il y avait les Caraïbes aussi qui venaient de temps en temps. Et on a encore quelques tribus, mais ce ne sont pas des grandes civilisations comme les Mayas ou les Incas ou les Aztèques. Du coup, ça s'est quand même passé assez vite. Au niveau de point de vue de l'histoire, c'était quand même... Je pense que l'histoire que nous, on a eue, elle était quand même assez objective. Et ça montre quand même qu'on est... qu'on est encore un pays qui a du progrès à faire sur beaucoup d'aspects. Et je pense que le problème, c'est aussi que de
mais
base...
Mais c'est pas seulement par rapport au problème, mais c'est par rapport au grand mouvement du développement du Venezuela. Donc après, il y a eu la conquête au niveau des Espagnols, il y a eu le grand Bolivar, justement, qui était une grosse partie de ce cours, non? De ce que tu m'as raconté avant.
Oui, bien sûr.
Qui est très peu connu au Brésil, donc on ne sait pas vraiment, on est très intéressé pour savoir qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, comment s'était passé après le développement un peu plus moderne du Venezuela pour en arriver jusqu'à Chavez. Enfin, voilà, c'est ça ce que les écouteurs en fait se posent comme question. C'est un pays très proche du Brésil, mais très loin aussi.
Bolivar, du coup, c'est le grand héros de l'indépendance du Venezuela et aussi d'autres pays d'Amérique latine.
Bolivia.
Bon, ben, bien sûr, typiquement Bolivia est appelé après. Mais effectivement, Bolivar a ils ont réussi l'indépendance du Venezuela en 1821 et l'indépendance définitive, on va dire. Et parce qu'elle avait été, il y a eu plusieurs essais qui ne sont pas très bien passés. Du coup, je crois que c'est le quatrième essai qui a vraiment marché. Et après, quand ils ont définitivement vaincu les Espagnols au Venezuela en 1821, Bolivar a aussi libéré la Colombie, l'Équateur. Une partie du Chili aussi. Non, pas le Chili, mais certainement une partie du Pérou et la Bolivie.
Il avait
et
sa
du
fameuse...
coup, il a vraiment.
Il a fait quoi? Il a fait quoi? Pardon.
Non, du coup, il a vraiment libéré presque la moitié de l'Amérique latine. Après, du côté argentin, Uruguay et Chili, c'était un autre personnage. Mm-hmm. Et il a vraiment essayé d'unifier tous les territoires qui ont été libérés, en fait. Mais avec pas sans succès, on va dire. Sans succès.
Mais bon, il a quand même mis les bases pour quand même les bases, les principes, les grandes institutions. Il avait participé aussi à la Révolution française, donc il y a son nom sur lui et Miranda sur l'Arc du
Non,
Triomphe, non?
Bolivar n'a pas participé à la Révolution française. C'est que Miranda. C'est que Miranda. Mais effectivement, c'est Miranda, c'est certainement une des personnes qui a été le plus, on va dire, enfin, Bolivar a hérité du mouvement indépendantiste de Miranda, on va dire.
Et c'est vrai que Bolivar, donc, c'est une personne, on va dire, assez un développement assez napoléonien, on va dire. Donc, il aimait bien conquérir les espaces, mais il voulait un territoire développé, éduqué, mais en même temps, il avait ces aspects assez qui aujourd'hui pourraient être vus comme assez chef, assez presque dictatoriaux, non, aussi
Ben,
Bolivar.
je pense que, et ça revient un peu à ce que je disais un peu avant, mais je pense que nous avons des problèmes qui existent depuis le début, en fait. Et ces problèmes-là remontent plus tard. Je pense on a toujours pensé qu'on a besoin de quelqu'un qu'on a besoin d'un gouvernement qui fasse tout, et on a besoin d'un chef qui soit. On n'a pas de principe démocratique à la fondation même du pays, en fait. À
Bien
la
que ce
fondation
soit
même du pays.
dans la Constitution, non, la Constitution est très démocratique.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, au niveau des principes dans lesquels les gens croient et font confiance. Ce ne sont pas les, pour moi, ce ne sont pas des principes démocratiques, ce que pensent les gens. Et pour moi, ça remonte aussi à, il y a pas de pensée philosophique, assez poussée. Les gens qui ont fondé, les États-Unis d'Amérique, c'est des gens, par exemple, pour tout le mal qu'on peut dire, c'était un groupement de gens qui ont fait de la philosophie, qui ont écrit, on peut retracer ce qu'ils pensaient. Et je pense, et ils ont aussi, c'est eux qui sont à la base de beaucoup d'inspiration, bah, même de la Révolution française, mais encore des révolutions en Amérique latine. Et je pense qu'en Amérique latine, toute la démocratie, ou tous les principes démocratiques desquels on s'est inspiré de la Constitution américaine et des écrits de philosophie politique aux États-Unis, sont plus un prétexte. C'est pas des principes qui ont été développés, sur lesquels on a vraiment réfléchi, mais c'est plus des prétextes déjà pour prendre le pouvoir de l'Espagne et ensuite pour le garder. Pour moi, il n'y a jamais eu vraiment de vraies réflexions démocratiques, sauf pour un peu calmer les gens ou faire semblant, en fait.
Et après, justement, il y a eu le grand développement du Venezuela, plutôt moderniste. Donc, il y a eu le mouvement aussi de dictature militaire aussi, comme dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud.
Comme dans
Le
tous les pays d'Amérique
fameux,
du Sud.
ouais. Et aussi le grand épisode que j'aimerais savoir comment tu l'expliques, c'est comment le pétrole a influencé le pays, comment c'était avant, comment c'était après. Que c'était découvert dans les années 60 à peu près, que ça s'est développé au Venezuela. Et ça a aussi influencé les relations avec les États-Unis, non?
Le pétrole, on sait qu'il y en a déjà depuis assez longtemps. Ils ont commencé à l'exploiter en 1910. Je pense que dès le début des années 1900, on commence à exploiter le pétrole venezuélien. Mais à l'époque, c'était encore une matière très bon marché. Le pétrole ne valait pas beaucoup d'argent, même en 1910. Progressivement, il a pris un peu de valeur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1920, c'est un peu flambé. C'est passé rapidement de 1 dollar le baril à 10. Et c'est resté un peu comme ça, surtout à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, c'était une ressource stratégique. Et pour le coup, il y a eu beaucoup de regards internationaux. Une des puissances qui est la plus proche, c'est bien sûr les États-Unis. Et ils ont eu grand intérêt à entretenir des bonnes relations avec le là. Et vice-versa. C'est quand même notre plus grand client. Et pour eux, on est la source la plus proche de pétrole. On a sûrement les ressources les plus grandes de pétrole au monde.
Non, c'est la troisième plus grosse au monde.
En réserve, on a les plus grandes, je crois.
Ouais.
Quelque chose comme ça.
Et c'est pour ça aussi que la relation avec les États-Unis, bien qu'il y a eu certaines frictions, même à l'époque de Chavez, qui disait pas mal de choses des États-Unis, les États-Unis aussi n'osaient pas vraiment, on va dire ça, frictionner, ramener des tensions avec le Venezuela, parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment se séparer de cet accord, économique.
Je pense que c'est pas trop le cas. En vrai, il y a quand même il y a un peu une révision un peu d'histoire à ce niveau-là. Mais il y a quand même pas mal de frictions entre les États-Unis et le Venezuela du temps de Bush. Mais dans un sens, Chavez aimait bien aboyer, mais il mord pas. Au niveau international, en fait. Et il pouvait dire beaucoup de choses, mais les États-Unis étaient quand même le client le plus important. Le Venezuela n'a jamais arrêté de vendre le pétrole aux États-Unis. Et tant que c'est le cas, en vrai, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de nous, en fait? Donc, tout va bien, en fait.
Attends, donc on va
Et bien
conclure donc.
sûr, oui. Et bien
Non.
sûr, après, pendant Obama, il y a eu une légère amélioration des relations au début. Je pense que Chavez pensait qu'il allait pouvoir un peu abuser du président démocratique, mais ce n'était pas du tout le cas. Et je pense que dès qu'il a vu que ce n'était pas du tout le cas, les relations se sont, entre guillemets, empiré, mais il parlait mal d'Obama à la télévision, etc. Mais et c'est pareil, c'était beaucoup beaucoup de mots pour ne rien dire.
Et comment tu penses donc que ça s'est développé avec Maduro, la situation des manifestations, des grandes migrations? Comment tu vois tout
Bon,
ça?
en ce moment, ce qu'on a, c'est en gros, une situation d'exilés, d'émigrés politiques. Un peu comme ce qu'on verrait en Europe avec. On a vu l'épisode de la Syrie en 2017, un peu en 2018 aussi. Et on a la même chose en Amérique latine avec les Vénézuéliens un peu partout en Amérique latine. Et un peu, on retrouve un peu les mêmes stigmas en ce moment. Être vénézuélien ailleurs qu'au Venezuela, c'est un peu mal vu. Il y a un peu toujours les mêmes réflexions qu'on pourrait avoir ici en Europe ou même ailleurs dans le monde quand il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent, etc. Dans le sens où nous on arrive et on fait les travaux que les travaux que personne ne veut faire. Et les gens ont l'impression qu'on prend la place des personnes.
Et tu penses que tu as eu des nouvelles du Venezuela, de gens, de la situation, de comment ça va se développer, je sais que c'est très spéculatif, mais ça donne au moins avoir une idée de quelqu'un qui est du pays, qui connaît encore des gens là-bas et tout.
Ben là, depuis début 2019, on a deux présidents. En début d'année, on pensait que que la fin était proche, on va dire. Là, on va bientôt être en 2020, ça ne c'est pas encore le cas. Et personnellement, je pense que je suis une des personnes les plus pessimistes à ce niveau-là. Je pense que tous les ans, on dit c'est la dernière. Tous les ans, on dit c'est la dernière. Mais à mon sens, on n'est pas sorti d'auberge à ce niveau-là. Je pense que tant qu'on a du pétrole et tant qu'on a du pétrole, on résoudra jamais la situation, en fait. Et l'autre problème, c'est que je suis pas convaincu qu'on a vraiment appris notre leçon. Et je vais pas être complètement pessimiste, mais je pense que tout changement ne peut être que positif, pour être honnête. Mais dans le même genre, est-ce que c'est positif de 10%, 20%, ou alors on part complètement dans l'autre sens, c'est très très positif. En une année, en 5 ans, on arrive à doubler le PIB, etc. Non, je pense pas. Je pense que dans l'ensemble, le vrai problème de toutes ces années, c'est que c'est pas forcément, c'est déjà que tout va mal, mais en plus qu'on a semé des graines de penser d'un gouvernement qui n'est pas bon, en fait, de penser que c'est à ce gouvernement de nous nourrir, de nous loger, de s'occuper de nous, alors que ce ne devrait pas être du tout le cas, en fait.
Donc tu penses que le pays va reprendre, mais ça va prendre au moins aller une dizaine d'années, c'est ça?
Mais je pense pas que le pays va reprendre. Je pense que ça reprend, ça sera pas de ma vie.
De notre vie sur Terre. Donc ce sera
pas de la mienne.
Ok. Ok, d'accord. Et donc pour conclure donc l'épisode du Venezuela, comment c'était donc ton arrivée en France? Quelles ont été tes impressions? Surtout après cette expérience-là.
Bon, moi, la France, je connais depuis très très longtemps. J'ai vécu ici quand j'étais petit. Du coup, c'est pas ça, ça a jamais été vraiment un choc de vivre ici. Je connais beaucoup ce pays. J'aime beaucoup ce pays. Bon, bien sûr, il y a tout ce qu'on peut s'attendre au niveau climat. Ici, il y a les 4 saisons. Il fait froid en hiver, il fait chaud en été. Et les gens sont bien sûr très différents culturellement.
Il y a quelque chose qui t'avait étonné. Moi, je me souviens que j'ai pris une photo du supermarché parce qu'il y avait tout à manger, dont le fameux papier toilette.
Bon, après, moi, ça m'a jamais vraiment surpris, ces histoires-là. Bien sûr que on peut un peu faire les comparaisons avec la maison, mais
non, c'est pas une histoire de faire une comparaison, c'est juste d'être surpris de voir quelque chose que tu n'avais pas vu il y a longtemps, tu vois.
Non, ça ne m'a pas surpris. C'est
okay.
Pas surpris, pour moi, c'est vraiment c'est la situation visuelle qui me surprend, en fait. Pas l'inverse.
Ok, d'accord. Et donc, t'as fait la prépa, comment ça s'est passé la prépa, tes études pour les terminer, et t'as fait une école de commerce, c'est ça?
Tout à fait.
Alors, comment ça se passe? Quelle est la différence avec une université?
On est beaucoup plus encadré. Après, bien sûr, j'ai pas fait la fac, donc c'est dur pour moi vraiment de comparer exactement. Mais avec la prépa, on est beaucoup plus encadré. En quelque sorte, c'est un peu comme une continuation du lycée. On est littéralement encore dans un lycée. On suit encore des cours. Mais on a des horaires assez poussés. C'est quand même des horaires très lourds, avec des examens tous les samedis de 4 heures. On est vraiment poussé au bout, quoi. Par rapport à, pas contrairement au lycée où je pensais qu'on était plutôt tranquille.
Ça a duré combien de
Et
temps?
2 ans.
2 ans, ok.
Deux ans.
Et après, donc, tu es entré en école de commerce. Et comment ça se passe dans une école de commerce? Qu'est-ce qu'on apprend?
Pour être honnête, pas grand-chose. On a quelques cours, mais surtout, peut-être que j'ai un peu une vision un peu restreinte, enfin, un peu biaisée par le fait que après passer par la prépa, le ressenti que j'ai de beaucoup de gens, c'est que tout semble un peu comme les vacances après. Et moi, les années d'école de commerce, j'ai eu l'impression que c'était un peu les vacances. C'était pas des choses très compliquées. Peut-être la dernière année où on aborde quand même les sujets un peu plus intéressants. Moi, j'ai fait particulièrement de la finance, un peu de la comptabilité. On aborde des choses un peu plus de haut niveau. Et donc là, bien sûr, ça se corse un peu, quoi. Mais bien sûr, jusque-là, j'ai pas eu vraiment l'impression que j'ai. Bon, j'étais étudiant, mais j'ai pas eu l'impression que je faisais grand-chose. En fait, on nous lâche un peu plus, bien sûr. La prépa, c'est très encadré. L'école de commerce, moins. Et du coup, c'est vraiment l'époque où si tu veux apprendre, bah, c'est à toi de faire tes propres recherches, c'est à toi de faire ta propre lecture. Mais personne va venir te voir pour te dire fais ci ou ça. Et si tu veux faire tel stage dans ta entreprise, c'est à toi de bouger, d'aller voir les entreprises. Mais personne va te dire si tu veux aller ici, fais ça. T'es beaucoup plus indépendant et c'est à toi de faire ton propre travail, en fait.
Et tu penses qu'il y a une façon française d'aborder le business?
Pas vraiment, dans le sens où, bon, encore une fois, c'est peut-être dû au fait de l'école que moi j'ai faite par rapport aux autres, mais le business est très. Je dirais pas qu'il y a une version française. Je dirais qu'il y a une version occidentale et surtout anglo-saxonne, en fait. Et les écoles de commerce françaises sont particulièrement, c'est des écoles privées, et elles sont particulièrement calquées sur le modèle anglo-saxon au niveau des choses qu'on apprend et au niveau du modèle qu'elles essayent de dupliquer, en fait.
Il y
Et
avait
du coup,
aussi un aspect aussi Union européenne aussi, non, là-dedans.
Dans quel sens?
Dans le sens où c'est une école française en France au milieu de l'Union européenne. L'Angleterre faisait encore partie de l'Union européenne.
Oui, non, bah après, comme dit, hein, c'est plutôt une façon de faire des choses de façon occidentale. Il n'y a pas de. Que ce soit bien sûr, c'est en Europe, mais les méthodes sont anglo-saxonnes, en fait. Et pour être. Donc, c'est un peu calqué sur les modèles américains. Et la plupart des entreprises se rapprochent de plus en plus de ça. Et là, si on parle des normes comptables, les normes comptables françaises se rapprochent de plus en plus des normes comptables internationales. Et les normes internationales sont proches des normes américaines, en fait. Donc.
Tout ceci s'unifie dans un seul système, c'est ça?
Oui, ben ça facilite aussi la façon de fonctionner. On fonctionne comme partout pareil, en fait.
Ouais, justement, donc c'est très très intéressant tout ça. Donc pour conclure le podcast, est-ce que tu as un projet intéressant que tu fais, que tu aimerais nous en parler
Non, pas particulièrement. J'avoue que j'ai une vie assez occupée professionnellement. Ça prend la plus grosse partie de ma vie, on va dire. Mais peut-être un jour.
Qu'est-ce que tu aimerais faire? Dis-moi.
Ben, honnêtement, j'aimerais bien écrire plus et être publié, mais il faudrait que je prenne le temps de m'améliorer à l'écrit.
Non, mais ça, c'est juste une question de temps. T'aimerais écrire quoi? Des poèmes? Des livres de comptables?
Non, plutôt des articles économiques et politiques.
C'est cool ça. Bon ben, on va attendre tes nouvelles. Je te
Ouais,
remercie beaucoup d'avoir.
j'en donnerai.
Ah ouais, merci. Hein. Donc, merci beaucoup d'avoir participé au podcast.
Merci.
Et tout le monde, restez là, qu'il y en aura plus. Allez, à toutes. Bye.
Salut.
Salut.